Germinie la Certeux, chapitre 20. Le jour des rois arriva. C'était le jour d'un grand dîner donné régulièrement chaque année par Mademoiselle de Varandeuil. Elle invitait ce jour-là tous les enfants de sa famille ou de ses amitiés, petits ou grands. À peine si le petit appartement pouvait les contenir. On était obligé de mettre une partie des meubles sur le carré. Et l'on dressait une table dans chacune des deux pièces qui formaient tout l'appartement de Mademoiselle. Pour les enfants, ce jour était une grande joie qu'ils se promettaient 8 jours d'avance. Ils montaient en courant l'escalier derrière les garçons pâtissiers. À table, ils mangeaient trop sans être grondés. Le soir, ils ne voulaient pas se coucher, grimpaient sur les chaises et faisaient un tapage qui donnait toujours à Mademoiselle de Varandeuil une migraine le lendemain. Mais elle ne leur en voulait pas. Elle avait eu les bonheurs d'une fête de grand-mère à les entendre, à les voir, à leur nouer par derrière la serviette blanche qui les faisait paraître si roses. Et pour rien au monde, elle n'eût manqué de donner ce dîner, qui remplissait son appartement de vieille fille de toutes ces petites têtes blondes de petits diables, et y mettait en un jour du bruit, de la jeunesse et des rires pour un an. Germinie était en train de faire ce dîner. Elle fouettait une crème dans une terrine sur ses genoux, quand tout à coup, elle sentit les premières douleurs. Elle se regarda dans le bout de glace cassé qu'elle avait au-dessus de son buffet de cuisine. Elle se vit pâle. Elle descendit chez Adèle. « Donne-moi le rouge à ta maîtresse !» lui dit-elle. Et elle s'en mit sur les joues. Puis elle remonta, et ne voulant pas s'écouter souffrir, elle finit son dîner. Il fallait le servir, elle le servit. Au dessert, pour donner des assiettes, elle s'appuyait aux meubles, se retenait au dossier des chaises, cachant sa torture avec l'horrible sourire crispé des gens dont les entrailles se tordent. « Ah ça, tu es malade !» lui dit sa maîtresse en la regardant. « Oui, mademoiselle, un peu. C'est peut-être le charbon, la cuisine. « Allons, va te coucher, on n'a plus besoin de toi, tu desserviras demain. » Elle redescendit chez Adèle. « Ça y est !» lui dit-elle. « Vite, un fiacre. C'est rue de la Huchette que tu m'as dit, en face d'un planeur de cuivre, ta sage-femme, n'est-ce pas? Tu n'as pas une plume, du papier ?» Et elle se mit à écrire un mot pour sa maîtresse. Elle lui disait qu'elle était trop souffrante, qu'elle allait à l'hôpital, qu'elle ne lui disait pas où, parce qu'elle se fatiguerait à venir la voir, que dans 8 jours elle serait revenue. « Voilà !» fit Adèle essoufflée en lui donnant le numéro du fiacre. « Je peux y rester !» lui dit Germinie. « Pas un mot à mademoiselle !»« Voilà tout ! Jure-moi ! Pas un mot !» Elle descendit l'escalier lorsqu'elle rencontra Jupillon. « Tiens ! » fit-il. « Où vas-tu ? Tu sors ? » ?»« Je vais accoucher. Ça m'a pris dans la journée. Il y avait un grand dîner. Ça a été dur. Pourquoi viens-tu ? Je t'avais dit de ne jamais venir. Je ne veux pas. » « C'est que, je vais te dire, dans ce moment-ci, j'ai absolument besoin de 40 francs. Mais là, vrai, absolument besoin. »« 40 francs ? Mais je n'ai que juste pour la sage-femme. » « C'est embêtant. Voilà, que veux-tu ?» Et il lui donna le bras pour l'aider à descendre. « Christi, je vais avoir du mal à les avoir tout de même. » Il avait ouvert la portière de la voiture. « Où faut-il qu'il te mène ?»« À la bourbe, » lui dit Germinie, et elle lui glissa les 40 francs dans la main. « Laisse donc, » fit Jupillon. « Ah, va, là ou autre part, et puis j'ai encore 7 francs. » Le fiacre partit. Jupillon resta un moment immobile sur le trottoir, regardant les 2 Napoléons dans sa main. Puis il se mit à courir après le fiacre, et l'arrêtant, il dit à Germinie par la portière, Au moins, je vais te conduire. Non, je souffre trop, j'aime mieux être seule, lui répondit Germinée en se tortillant sur les coussins du fiacre. Au bout d'une éternelle demi-heure, le fiacre s'arrêta rue de Port-Royal, devant une porte noire surmontée d'une lanterne violette qui annonçait aux étudiants en médecine de passage dans la rue qu'il y avait, cette nuit-là et dans ce moment-là, la curiosité et l'intérêt d'un accouchement laborieux à la maternité. Le cocher descendit de son siège et sonna. Le concierge, aidé d'une fille de salle, prenant Germinée sous les bras, la monta à l'un des quatre lits de la salle d'accouchement. Une fois dans le lit, ses douleurs se calmèrent un peu. Elle regarda autour d'elle, vit les autres lits vides, et au fond de l'immense pièce, une grande cheminée de campagne flambante d'un grand feu, devant lequel, accrochés à une barre de fer, séchaient des langes, des draps, des alaises. Une demi-heure après, Germinée accouchait. Elle mit au monde une petite fille. On roula son lit dans une autre salle. Elle était là depuis plusieurs heures, abîmée dans ce doux affaissement de la délivrance qui suit les épouvantables déchirements de l'enfantement, tout heureuse et tout étonnée de vivre encore, nageant dans le soulagement et profondément pénétrée du vague bonheur d'avoir créé. Tout à coup, un cri. « Je me meurs !» lui fit regarder à côté d'elle. Elle vit une de ses voisines jeter ses bras autour du cou d'une élève sage-femme de garde, retomber presque aussitôt, remuer un instant sous les draps, puis ne plus bouger. Presque au même instant, d'un lit à côté, il s'éleva un autre cri horrible, perçant, terrifié, le cri de quelqu'un qui voit la mort. C'était une femme qui appelait avec des mains désespérées la jeune élève. L'élève accourut, se pencha et tomba raide évanouie par terre. Alors le silence revint. Mais entre ces deux mortes et cette demi-morte que le froid du carreau mit plus d'une heure à faire revenir, Germinée et les autres femmes encore vivantes dans la salle restèrent sans même oser tirer la sonnette d'appel et de secours pendue dans chaque lit. Il y avait alors à la maternité une de ces terribles épidémies puerpérales qui soufflent la mort sur la fécondité humaine, un de ces empoisonnements de l'air qui vident, en courant, par rangées, les lits des accouchés, et qui autrefois faisait fermer la clinique. On croirait voir passer la peste. Une peste qui noircit les visages en quelques heures, enlève tout, emporte les plus fortes, les plus jeunes. Une peste qui sort des berceaux, la peste noire des mères. C'était tout autour de Germinée, à toute heure, la nuit surtout, des morts, telles qu'en fait la fièvre de lait. Des morts qui semblaient violer la nature. Des morts tourmentées, furieuses de cris, troublée d'hallucinations et de délires, des agonies auxquelles il fallait mettre la camisole de force de la folie, des agonies qui s'élançaient tout à coup hors d'un lit en emportant les draps et faisaient frissonner toute la salle de l'idée de voir revenir les mortes de l'amphithéâtre. La vie s'en allait, là, comme arrachée du corps. La maladie même y avait une forme d'horreur et une monstruosité d'apparence. Dans les lits, aux lueurs des lampes, les draps se soulevaient vaguement et horriblement, au milieu, sous les enflures de la péritonite. Pendant 5 jours, Germinée, pelotonnée et se ramassant dans son lit, fermant comme elle pouvait les yeux et les oreilles, eut la force de combattre toutes ses terreurs et de n'y céder que par moments. Elle voulait vivre, et elle se rattachait à ses forces par la pensée de son enfant, par le souvenir de mademoiselle. Mais le 6e jour, elle fut à bout d'énergie, son courage l'abandonna. Un froid lui passa dans l'âme. Elle se dit que tout était fini. Cette main que la mort vous pose sur l'épaule, Le pressentiment de mourir la touchait déjà. Elle sentait cette première atteinte de l'épidémie. La croyance de lui appartenir et l'impression d'en être déjà à demi possédée. Sans se résigner, elle s'abandonnait. À peine si sa vie, vaincue d'avance, faisait encore l'effort de se débattre. Elle en était là, lorsqu'une tête se pencha comme une lumière sur son lit. C'était la tête de la plus jeune des élèves, une tête blonde, aux grands cheveux d'or, aux yeux bleus si doux que les mourantes voyaient le ciel s'y ouvrir. En l'apercevant, les femmes dans le délire disaient « Tiens, la Sainte Vierge !»« Mon enfant, » dit l'élève à Germinie, « vous allez demander tout de suite votre permis, il faut vous en aller. Vous vous mettrez bien chaudement. Vous vous garnirez bien. Aussitôt que vous serez chez vous couché, vous prendrez quelque chose de bouillant, de la tisane, du tilleul, vous tâcherez de suer. Comme ça, vous n'aurez pas de mal. Mais allez-vous-en. Ici, cette nuit, fit-elle en promenant son regard sur les lits, il ne ferait pas bon pour vous. Ne dites pas que c'est moi qui vous fais partir, vous me feriez mettre à la porte. » Chapitre 21. Germinie se rétablit en quelques jours. La joie et l'orgueil d'avoir donné le jour à une petite créature où sa chair était mêlée à la chair de l'homme qu'elle aimait, le bonheur d'être mère, la sauvèrent des suites d'une couche mal soignée. Elle revint à la santé et elle eut à vivre un air de plaisir que sa maîtresse ne lui avait jamais vu. Tous les dimanches, quelque temps qu'il fit, elle s'en allait sur les 11 heures. Mademoiselle croyait qu'elle allait voir une amie à la campagne, et elle était enchantée du bien que faisait à sa bonne ses journées au grand air. Germinie prenait Jupillon, qui se laissait emmener sans trop rechigner, et ils partaient pour Pomeuse où était l'enfant, et où les attendait un bon déjeuner commandé par la mère. Une fois dans le wagon du chemin de fer de Mulhouse, Germinie ne parlait plus, ne répondait plus. Penchée à la portière, elle semblait avoir toutes ses pensées devant elle. Elle regardait, comme si son désir voulait dépasser la vapeur. Le train à peine arrêté, elle sautait, jetait son billet à l'homme des billets et courait dans le chemin de Pomeuse, laissant Jupillon derrière elle. Elle approchait, elle arrivait, elle y était, c'était là. Elle fondait sur son enfant, l'enlevait des bras de la nourrice avec des mains jalouses, des mains de mère, le pressait, le serrait, l'embrassait, le dévorait de baisers, de regards, de rires. Elle l'admirait un instant, puis, égarée, bien heureuse, folle d'amour, le couvrait jusqu'au bout de ses petits pieds nus des tendresses de sa bouche. On déjeunait. Elle s'attablait, l'enfant sur ses genoux, et ne mangeait pas. Elle l'avait tant embrassé qu'elle ne l'avait pas encore vu, et elle se mettait à chercher, à détailler la ressemblance de la petite avec eux deux. Un trait était à lui, un autre à elle. « C'est ton nez, c'est mes yeux. Elle aura les cheveux comme les tiens avec le temps, ils friseront. Vois-tu, voilà tes mains, c'est tout toi. » Et c'était pendant des heures ce radotage intarissable et charmant des femmes qui veulent faire à un homme la part de leur fille. Jupillon se prêtait à tout cela sans trop d'impatience, grâce à des cigares à 3 sous que Germinie tirait de sa poche et qu'elle lui donnait un à un. Puis il avait trouvé une distraction. Au bout du jardin passait le Morin. Jupillon était parisien. Il aimait la pêche à la ligne. Il était venu, il se tenait là, toute la journée, au fond du jardin, au bord de l'eau. Jupillon sur une planche à laver, jetée sur 2 piquets, sa ligne à la main. Germinie, son enfant dans sa jupe, assise par terre sous le néflier, penché sur la rivière. Le jour étincelait. Le soleil brûlait la grande eau courante, d'où se levaient des éclairs de miroir. C'était comme une joie de feu du ciel, et de la rivière, au milieu de laquelle Germinie tenait sa fille debout et la faisait piétiner sur elle, nue et rose, avec sa brassière écourtée, la peau tremblante de soleil par places, la chair frappée de rayons comme de la chair d'ange qu'elle avait vue dans les tableaux. Elle ressentait de divines douceurs, quand la petite, avec ses mains tatillonnantes des enfants qui ne parlent pas encore, lui touchait le menton, la bouche, les joues, s'obstinait à lui mettre les doigts dans les yeux, les arrêtait en jouant sur son regard et promenait sur tout son visage le chatouillement et le tourment de ses chères petites menottes qui semblent chercher à l'aveuglette la face d'une mère. C'était comme si la vie et la chaleur de son enfant lui erraient sur la figure. De temps en temps, en voyant par-dessus la tête de la petite la moitié de son sourire à jupillon, elle lui criait « Mais regarde-la donc !» Puis l'enfant s'endormait avec cette bouche ouverte qui rit au sommeil. Germinie se penchait sur son souffle. Elle écoutait son repos. Et peu à peu, bercée à cette respiration d'enfant, elle s'oubliait délicieusement à regarder ce pauvre lieu de son bonheur, le jardin agreste, les pommiers aux feuilles garnies de petits escargots jaunes, aux pommes rosées du côté du midi, les rames où s'enroulaient, aux pieds tordus et grillés, les tiges de pois, le carré de choux, les quatre tournesols dans le petit rond au milieu de l'allée. Puis, tout près d'elle, au bord de la rivière, les places d'herbes remplies de foirolles, les têtes blanches des orties contre le mur, les boîtes de laveuse et les bouteilles d'eau de lessive, la botte de paille éparpillée par la folie d'un jeune chien sortant de l'eau. Elle regardait et rêvait. Elle songeait au passé, en ayant son avenir sur les genoux. De l'herbe, des arbres, de la rivière qui était là, elle refaisait, avec le souvenir, le rustique jardin de sa rustique enfance. Elle revoyait les deux pierres descendant à l'eau, où sa mère, avant de la coucher, l'été, lui lavait les pieds quand elle était toute petite. « Dites donc, père Romalard !» dit par une des plus chaudes journées d'août Jupillon, posté sur sa planche au bonhomme qui le regardait. « Savez-vous que ça ne pique pas pour un liard avec le vert rouge ?»« Il faudrait de l'asticot !» dit sentencieusement le paysan. « Eh bien, on se payera de l'asticot, père Romalard. Faut avoir un mou de veau jeudi, vous m'accrocherez ça dans cet arbre. Et dimanche, nous verrons bien. » Le dimanche, Jupillon fit une pêche miraculeuse, et Germinie entendit la première syllabe sortir de la bouche de sa fille. Chapitre 22. Le mercredi matin, en descendant, Germinie trouva une lettre pour elle. Dans cette lettre, écrite au revers d'une quittance de blanchisseur, la femme Remalard lui disait que son enfant était tombé malade presque aussitôt qu'elle était partie, que depuis elle allait toujours plus mal, qu'elle avait consulté le docteur, qu'il lui avait parlé d'une mauvaise mouche qui avait piqué la petite, qu'elle avait été la faire voir une seconde fois, qu'elle ne savait plus que faire, qu'elle avait fait faire des pèlerinages pour elle. La lettre finissait. « Si vous voyez comme j'ai de l'embarras pour votre petite, si vous voyez comme elle est gentille quand elle n'endure pas de mal. » Cette lettre fit à Germinie l'effet d'un grand coup qui vous pousse en avant. Elle sortit et se dirigea machinalement du côté de chemin de fer qui menait chez sa petite. Elle était en cheveux et en pantoufles, mais elle n'y songeait pas. Il fallait qu'elle vît son enfant, qu'elle le vît tout de suite. Après, elle reviendrait. Elle pensa un moment au déjeuner de mademoiselle, puis l'oublia. Tout à coup, à mi-chemin dans la rue, elle vit l'heure à l'horloge d'un bureau de fiacre. Elle se rappela qu'il n'y avait pas de départ à cette heure-là. Elle retourna sur ses pas, se dit qu'elle allait bâcler le déjeuner, puis qu'elle trouverait un prétexte pour être libre le reste de la journée. Mais le déjeuner servi, elle ne trouva rien. Elle avait la tête si pleine de son enfant qu'elle ne put inventer un mensonge. Son imagination était stupide. Et puis, si elle avait parlé, demandé, elle aurait éclaté. Elle se sentait sur les lèvres. « C'est pour voir ma petite !» La nuit, elle n'osa se sauver. Mademoiselle avait été un peu souffrante la nuit précédente. Elle avait peur qu'elle n'eût besoin d'elle. Le lendemain, quand elle entra chez mademoiselle, avec une histoire imaginée la nuit, toute prête à lui demander à sortir, mademoiselle lui dit, en lisant la lettre qu'elle lui avait remontée de chez le portier, « Ah, c'est ma vieille de Belleuse qui a besoin de toi toute la journée pour l'aider à ses confitures. Allons, mets 2 œufs, en poste et des campes. »« Hein? Quoi, ça te chiffonne? Qu'est-ce qu'il y a ?»«
Moi? Mais pas du tout !» eut la force de dire Germini.
Tout ce long jour, elle le passa au feu des bassines, au ficellement des pots, dans la torture des gens que la vie cloue loin du mal de ceux qu'ils aiment. Elle eut le déchirement des malheureux, qui ne peuvent aller où sont leurs inquiétudes. Et creusant jusqu'au fond le désespoir de l'éloignement et de l'incertitude, se figurent à toute minute qu'on va mourir sans eux. En ne trouvant pas de lettre le jeudi soir, pas de lettre le vendredi matin, elle se rassura. Si la petite allait plus mal, la nourrice lui aurait écrit. La petite allait mieux. Elle se la figurait sauvée, guérie. Cela manque toujours de mourir, et cela reprend si vite, les enfants. Et puis, la sienne était forte. Elle se décida à attendre, patienter jusqu'au dimanche, dont elle n'était plus séparée que par 48 heures. Trompant le reste de ses craintes avec les superstitions qui disent oui à l'espérance, se persuadant que sa fille était réchappée, parce que le matin, la première personne qu'elle avait rencontrée était un homme, parce qu'elle avait vu dans la rue un cheval rouge, parce qu'elle avait deviné qu'un passant tournerait à telle rue, parce qu'elle avait remonté un étage en temps d'enjambée. Le samedi, dans la matinée, en entrant chez la mère Jupillon, elle la trouva en train de pleurer de grosses larmes sur une motte de beurre qu'elle recouvrait d'un linge mouillé. « Ah, c'est vous !» fit la mère Jupillon. « Cette pauvre charbonnière, j'en pleure, tenez, elle sort d'ici. C'est que vous ne savez pas, ils ne peuvent se faire la figure propre dans leur état qu'avec du beurre. Et voilà que son amour de petite fille... Elle est à la mort, vous savez, ce chéri d'enfant. Ce que c'est que de nous. Ah, mon Dieu, oui. Eh bien, elle lui a dit comme ça tout à l'heure, « Maman, je veux que tu me débarbouilles au beurre, tout de suite, pour le bon Dieu. Oh. » Et la mère Jupillon se mit à sangloter. Germini s'était sauvée. De la journée, elle ne put tenir en place. À tout moment, elle montait dans sa chambre préparer les petites affaires qu'elle voulait apporter à sa petite le lendemain pour la mettre blanchement, lui faire une petite toilette de ressuscité. Comme elle redescendait le soir pour aller coucher mademoiselle, Adèle lui remit une lettre qu'elle avait trouvée pour elle en bas. Chapitre 23. Mademoiselle avait commencé à se déshabiller quand Germini entra dans sa chambre, fit quelques pas, se laissa tomber sur une chaise et presque aussitôt, avec 2 ou 3 soupirs, longs, profonds, arrachés et douloureux, mademoiselle la vit, se renversant et se tordant, rouler à bas de la chaise et tomber à terre. Elle voulut la relever, mais Germini était agitée de mouvements convulsifs si violents que la vieille femme fut obligée de laisser retomber sur le parquet ce corps furieux dont tous les membres, contractés et ramassés un moment sur eux-mêmes, se lançaient à droite, à gauche, au hasard, partait avec le bruit sec de la détente d'un ressort, jetait à bas tout ce qu'il cognait. Au cri de mademoiselle sur le carré, une bonne courut chez un médecin d'à côté qu'elle ne trouva pas. Quatre autres femmes de la maison aidèrent mademoiselle à enlever Germinie et à la porter sur le lit de sa chambre, où on l'étendit, après lui avoir coupé les lacets de son corset. Les terribles secousses, les détentes nerveuses des membres, les craquements de tendons avaient cessé. Mais sur le cou, sur la poitrine que découvrait la robe dégrafée, passaient des mouvements ondulatoires pareils à des vagues levées sous la peau et que l'on voyait courir jusqu'aux pieds dans un frémissement de jupe. La tête renversée, la figure rouge, les yeux pleins d'une tendresse triste, de cette angoisse douce qu'ont les yeux des blessés, de grosses veines se dessinant sous le menton, haletante et ne répondant pas aux questions, Germinie portait les deux mains à sa gorge, à son cou, et les égratignait. Elle semblait vouloir arracher de là la sensation de quelque chose montant et descendant au-dedans d'elle. Vainement, on lui faisait respirer de l'éther, boire de l'eau de fleurs d'oranger. Les ondes de douleur qui passaient dans son corps continuaient à le parcourir, et dans son visage persistait cette même expression de douceur mélancolique et d'anxiété sentimentale qui semblait mettre une souffrance d'âme sur la souffrance de chair de tous ses traits. Longtemps, tout parut blesser ses sens et les affecter douloureusement. L'éclat de la lumière, le bruit des voix, le parfum des choses. Enfin, au bout d'une heure, tout à coup des pleurs, un déluge s'échappant de ses yeux, emportait la terrible crise. Ce ne fut plus qu'un tressaillement de loin en loin, dans ce corps accablé, bientôt apaisé par la lassitude, par un brisement général. Il fallut porter Germinie dans sa chambre. La lettre que lui avait remise Adèle était la nouvelle de la mort de sa fille. Chapitre 24. À la suite de cette crise, Germinie tomba dans un abrutissement de douleur. Pendant des mois, elle resta insensible à tout. Pendant des mois, envahie et remplie tout entière par la pensée du petit être qui n'était plus, elle porta dans ses entrailles la mort de son enfant comme elle avait porté sa vie. Tous les soirs, quand elle remontait dans sa chambre, elle tirait de la malle placée au pied de son lit le béguin et la brassière de sa pauvre chérie. Elle les regardait, elle les touchait, elle les étendait sur sa couverture. Elle restait des heures à pleurer dessus, à les baiser, à leur parler, à leur dire les mots qui font causer le chagrin d'une mère avec l'ombre d'une petite fille. Pleurant sa fille, la malheureuse se pleurait elle-même. Une voix lui murmurait que, cet enfant vivant, elle était sauvée, que cet enfant, aimé, c'était sa providence, que tout ce qu'elle redoutait d'elle-même irait sur cette tête et s'y sanctifierait, ses tendresses, ses élancements, ses ardeurs, tous les feux de sa nature. Il lui semblait sentir d'avance son cœur de mère, apaiser et purifier son cœur de femme. Dans sa fille, elle voyait je ne sais quoi de céleste, qui la rachèterait et la guérirait, comme un petit ange de délivrance, sorti de ses fautes pour la disputer et la reprendre aux influences mauvaises qui la poursuivaient et dont elle se croyait parfois possédée. Quand elle commença à sortir de ce premier anéantissement de son désespoir, quand la perception de la vie et la sensation des choses lui revenant, elle regarda autour d'elle avec des yeux qui voyaient. Elle fut réveillée de sa douleur par une amertume plus aiguë. Devenue trop grosse, trop lourde pour le service de sa crèmerie, et trouvant qu'elle avait encore trop à faire, malgré tout ce que faisait Germinie, Madame Jupillon avait fait venir pour l'aider une nièce de son pays. C'était la jeunesse de la campagne que cette petite, une femme où il y avait encore de l'enfant, vive et vivace, les yeux noirs et pleins de soleil, les lèvres comme une chair de cerise, pleines, rondes et rouges, l'été de son pays dans le teint, la chaleur de la santé dans le sang. Ardente et naïve, la jeune fille était allée au premier jour vers son cousin, simplement, naturellement, par cette pente d'un même âge qui fait chercher la jeunesse à la jeunesse. Elle s'était jetée au-devant de lui avec l'impudeur de l'innocence, une effronterie candide, les libertés qu'apprennent les champs, la folie heureuse d'une riche nature, toutes sortes d'audace, d'ignorance, d'ingénuité hardie et de coquetterie rustique, contre lesquelles la vanité de son cousin n'avait point su se défendre. À côté de cet enfant, Germinie n'eut plus de repos. La jeune fille la blessait à toutes les minutes par sa présence, son contact, ses caresses, tout ce qui avouait l'amour dans son corps amoureux. L'occupation qu'elle avait de Jupillon, le service qu'il approchait de lui, les émerveillements de provinciale qu'elle lui montrait, les demi-confidences qu'elle laissait venir à ses lèvres. Le jeune homme sortit. Sa gaieté, ses plaisanteries, sa bonne humeur bien portante, tout exaspérait Germinie. Tout soulevait en elle de sourdes colères. Tout blessait ce cœur entier et si jaloux que les animaux même le faisaient souffrir en paraissant aimer quelqu'un qu'il aimait. Elle n'osait parler à la mère Jupillon, lui dénoncer la petite de peur de se trahir. Mais toutes les fois qu'elle se trouvait seule avec Jupillon, elle éclatait en récriminations, en plaintes, en querelles. Elle lui rappelait une circonstance, un mot, quelque chose qu'il avait fait, dit, répondu, un rien oublié par lui, et qui saignait toujours en elle. « Es-tu folle ?» lui disait Jupillon. « Une gamine !»« Une gamine, ça ? Laisse donc ! Qu'elle a des yeux que tous les hommes la regardent dans la rue ! L'autre jour, je suis sortie avec elle. J'étais honteuse. Je ne sais pas comment elle a fait. Nous avons été suivis tout le temps par un monsieur. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Elle est jolie, voilà. Jolie, jolie. » Et sur ce mot, Germinie se jetait, comme coup de griffe, sur la figure de la jeune fille et la déchirait en paroles enragées. Souvent, elle finissait par dire à Jupillon : « Tiens, tu l'aimes. » « Eh bien, après !» répondait Jupillon, auquel ne déplaisaient pas ces disputes, la vue et le jeu de cette colère qu'il piquait avec des taquineries, l'amusement de cette femme qu'il voyait, sous ses sarcasmes et son sang-froid, perdre à demi la raison, s'égarer, trébucher dans un commencement de folie, donner de la tête contre les murs. À la suite de ces scènes, qui se répétaient, revenaient presque chaque jour, une révolution se faisait dans ce caractère mobile, extrême et sans milieu, dans cette âme où les violences se touchaient. Longuement empoisonné, l'amour se décomposait et se tournait en haine. Germinie se mettait à détester son amant, à chercher tout ce qui pouvait le lui faire détester davantage. Et sa pensée revenant à sa fille, à la perte de son enfant, à la cause de sa mort, elle se persuadait que c'était lui qui l'avait tué. Elle lui voyait des mains d'assassin. Elle le prenait en horreur. Elle s'éloignait, se sauvait de lui comme de la malédiction de sa vie, avec l'épouvante qu'on a de quelqu'un qui est votre malheur. Chapitre 25. Un matin, après une nuit où elle avait retourné en elle toutes ses idées de désolation et de haine, entrant chez la crémière prendre ses 4 sous de lait, Germinie trouva dans l'arrière-boutique 2 ou 3 bonnes de la rue qui tuaient le verre. Attablée, elle sirotait des cancans et des liqueurs. « Tiens !» dit Adèle en frappant de son verre contre la table. « Te v'là déjà, mademoiselle de Varandeuil ?
Qu'est-ce que c'est que ça ? Fit Germinie en prenant le verre d'Adèle. J'en veux.
T'as si soif que ça, ce matin ? De l'eau-de-vie et de l'absinthe, rien que ça. Le mélo de mon piou, tu sais bien. Le militaire, il ne buvait que ça. C'est raide, hein ?
Ah oui, dit Germinie avec le mouvement de lèvres et le plissement d'yeux d'un enfant auquel on donne un verre de liqueur au dessert d'un grand dîner.
C'est bon, tout de même.
Son cœur se levait.
Madame Jupillon, la bouteille par ici, je paye.
Et elle jeta de l'argent sur la table.
Au bout de 3 verres, elle cria « Je suis paf !»
Et elle partit d'un éclat de rire. Mademoiselle de Varandeuil avait été ce matin-là toucher son petit semestre de rente. Quand elle rentra à 11 heures, elle sonna une fois, 2 fois, rien ne vint.
« Ah ! » se dit-elle, « elle sera descendue. »
Elle ouvrit avec sa clé, alla à sa chambre, entra. Les matelas et les draps de son lit, en train d'être faits, retombaient, jetés sur 2 chaises. Et Germinie était étendue en travers de la paillasse, dormant inerte comme une masse dans la vachissement d'une soudaine léthargie. Au bruit de mademoiselle, Germinie se releva d'un bond, passa sa main sur ses yeux. « Hein ? » fit-elle comme si on l'appelait. Son regard rêvait.
« Qu'est-ce qu'il y a ? »
fut mademoiselle de Varandeuil effrayée.
« Tu es tombée ? As-tu quelque chose ?»
« Moi, non, »
répondit Germinie.
« J'ai dormi. Quelle heure est-il ? Ce n'est rien. Oh, c'est bête. »
Et elle se mit à fourrager la paillasse en tournant le dos à sa maîtresse pour lui cacher le rouge de la boisson sur son visage. Chapitre 26. Un dimanche matin, Jupillon s'habillait dans la chambre que lui avait meublée Germinie. Sa mère assise le contemplait avec cet ébahissement d'orgueil qu'ont les yeux des mères du peuple devant un fils qui se met en monsieur.
« C'est que t'es mis comme le jeune homme du premier, » lui dit-elle. « On dirait son paletot. C'est pas pour dire, mais le riche te va joliment à toi. »
Jupillon, en train de faire le nœud de sa cravate, ne répondit pas.
Tu vas en faire de ces malheureuses, reprit la mère Jupillon,
et donnant à sa voix un ton d'insinuation caressante.
Dis donc, Bibi, que je te dise, grand mauvais sujet. Les jeunesses qui fautent, tant pis pour elles, ça les regarde, c'est leur affaire. Tu es un homme, n'est-ce pas? T'as l'âge, t'as le physique, t'as tout. « Moi, je peux pas toujours te tenir à la tâche. Alors, que je m'ai dit, autant l'une que l'autre, va pour celle-là. Et j'ai fait celle qui ne voit rien. Eh bien oui, pour Germinie. Comme t'avais là ton agrément, ça t'empêchait de manger ton argent avec de mauvaises femmes. Et puis, je n'y voyais pas d'inconvénient à cette fille, jusqu'à maintenant. Mais c'est plus ça, à cette heure. Ils font des histoires dans le quartier. » Un tas d'horreurs qu'ils disent sur nous. Des vipères, quoi. Tout ça, nous sommes au-dessus, je sais bien. Quand on a été honnête toute sa vie, Dieu merci. Mais on ne sait jamais ce qui retourne. Mademoiselle n'aurait qu'à mettre le nez dans les affaires de sa bonne. Moi, d'abord, la justice. Rien que l'idée, ça me retourne les sens. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein, Bibi ?
Dame, maman, ce que tu voudras.
Ah, je savais bien que tu l'aimais, ta bonne chérie de maman,
fit en l'embrassant la monstrueuse femme.
Eh bien, invite-la à dîner ce soir. Tu monteras 2 bouteilles de notre Lunel, du 2 francs, celui qui tape, et qu'elle vienne, sûr. Fais-lui des yeux, qu'elle croie que c'est aujourd'hui le grand jour. Mets tes beaux gants, tu seras plus révérend.
Le soir, Germinie arriva sur les 7 heures, toute heureuse, toute gaie, toute espérante, la tête remplie de rêves, par l'air de mystère mis par Jupillon à l'invitation de sa mère. L'on dîna, l'on but, l'on rit.
la mère Jupillon commença à laisser tomber des regards émus, mouillés, noyés sur le couple assis en face d'elle. Au café, elle dit, comme pour rester seule avec Germinie,
« Bibi, tu sais que tu as une course à faire ce soir. »
Jupillon sortit. Madame Jupillon, tout en prenant son café à petites gorgées, tourna alors vers Germinie le visage d'une mère qui demande le secret d'une fille et enveloppe d'avance sa confession du pardon de ses indulgences. Un instant, les deux femmes restèrent ainsi, silencieuses, l'une attendant que l'autre parlât, l'autre ayant le cri de son cœur au bord de ses lèvres. Tout à coup, Germinie s'élança de sa chaise et se précipita dans les bras de la grosse femme.
« Si vous saviez, Madame Jupillon !»
Elle parlait, pleurait, embrassait.
« Oh, vous ne m'en voudrez pas ? Eh bien oui, je l'aime, j'en ai eu un enfant, c'est vrai, je l'aime, voilà 3 ans !»
À chaque mot, la figure de Madame Jupillon s'était refroidie et glacée. Elle écarta sèchement Germinie, et de sa voix la plus dolente, avec un accent de lamentation et de désolation désespérée, elle se mit à dire, comme une personne qui suffoque,
« Oh, mon Dieu, vous, me dire des choses comme ça, à moi, à sa mère, en face, mon Dieu, faut-il, mon fils, un enfant, un innocent d'enfant, vous avez eu le front de me le débaucher ? Et vous me dites encore que c'est vous ? Non, ce n'est pas Dieu possible. Moi qui avais si confiance, c'est à ne plus pouvoir vivre. Il n'y a donc plus de sûreté en ce monde. Ah, mademoiselle, tout de même, je n'aurais jamais cru ça de vous. Bon, voilà des choses qui me tournent. Oh, tenez, ça me fait une révolution. Je me connais, je suis capable d'en faire une maladie. Madame Jupillon, Madame Jupillon,
murmurait d'un ton d'imploration Germinie, en se mourant de honte et de douleur sur la chaise où elle était retombée.
« Je vous demande pardon, ça a été plus fort que moi. Et puis je pensais, j'avais cru. » « Vous aviez cru ? Ah, mon Dieu, vous aviez cru ! Qu'est-ce que vous aviez cru ? Vous, la femme de mon fils, n'est-ce pas ? Ah, Seigneur Dieu, c'est-il possible, ma pauvre enfant ?»
Et prenant, à mesure qu'elle lançait à Germinie de ces mots qui font plaie, une voix plus plaintive et plus gémissante, la mère Jupillon reprit.
« Mais ma pauvre fille, voyons, faut une raison. Qu'est-ce que j'ai toujours dit ? Que ça serait à faire si vous aviez 10 ans de moins sur votre naissance. Voyons, votre date, c'est 1820 que vous m'avez dit, et nous voilà en 49. » Vous marchez sur vos 30 ans, savez-vous, ma brave enfant? Tenez, ça me fait mal de vous dire ça. Je voudrais tant ne pas vous faire de la peine. Mais il n'y a que vous voir, ma pauvre demoiselle. Que voulez-vous? C'est l'âge. Vos cheveux, on mettrait un doigt dans votre raie.
Mais, dit Germinie, en qui une noire colère commençait à gronder.
Ce qu'il me doit, votre fils? Mon argent, l'argent que j'ai retiré de la caisse d'épargne, l'argent que j'ai emprunté pour lui, l'argent que j'ai...
Ah, de l'argent, il vous doit. Ah oui, ce que vous lui avez prêté pour commencer à travailler.
Eh bien, l'a-t-il pas? Est-ce que vous croyez avoir affaire à des voleurs? Est-ce qu'on a envie de vous le nier, votre argent? Quoi qu'il n'y ait pas de papier. À preuve que l'autre jour, ça me revient. Cet honnête homme d'enfant voulait faire les cris de ça, au cas où il viendrait à mourir.
Mais tout de suite, on est des filous, voilà, ça ne fait pas un pli.
Ah, mon Dieu, si c'est la peine de vivre dans un temps comme ça. Ah, je suis bien puni de m'être attaché à vous. Mais tenez, voilà que j'y vois clair, présent. Ah, vous êtes politique, vous. Vous avez voulu vous payer mon fils, et pour toute la vie. Excusez. Ah, bien, merci. C'est moins cher de vous le rendre, votre argent. Le reste d'un garçon de café, mon pauvre chèvre enfant. Dieu l'en préserve.
Germinie avait arraché de la patère son châle et son chapeau. Elle était dehors. Chapitre 27. Mademoiselle était assise dans son grand fauteuil au coin de la cheminée, où dormait toujours un peu de braise sous les cendres. Son serre-tête noir, abaissé sur les rides de son front, lui descendait presque jusqu'aux yeux. Sa robe noire, en forme de fourreau, laissait pointer ses os, plissait maigrement sur la maigreur de son corps et tombait tout droit de ses genoux. Un petit châle noir, croisé, était noué derrière son dos à la façon des petites filles. Elle avait posé sur ses cuisses ses mains retournées et à demi ouvertes. De pauvres mains de vieille femme, gauches et raidies, enflées aux articulations et aux nœuds des doigts par la goutte. Enfoncée dans la pose, fléchie et cassée, qui fait soulever la tête au vieillard pour vous voir et vous parler, elle se tenait ramassée et comme enterrée dans tout ce noir, d'où ne sortait que son visage jauni par la bile des tons du vieil ivoire et la flamme chaude de son regard brun. À la voir, à voir ses yeux vivants et gais, ce corps misérable, cette robe de pauvreté, cette noblesse à porter l'âge en tous ses deuils, on eût cru voir une fée au petit ménage. Germinie était à côté d'elle. La vieille demoiselle se mit à lui dire « Il y est toujours le bourrelet sous la porte, hein, Germinie ?»«
Oui, mademoiselle. »«
Sais-tu, ma fille ?» reprit mademoiselle de Varandeuil après un silence. « Sais-tu que, quand on est né dans un des plus beaux hôtels de la rue Royale, qu'on a dû posséder le grand et le petit Charolais, qu'on a dû avoir pour campagne le château de Clichy-la-Garenne, qu'il fallait deux domestiques pour porter le plat d'argent sur lequel on servait le rôti chez votre grand-mère. Sais-tu qu'il faut encore pas mal de philosophie ?» Et mademoiselle se passa avec difficulté une main sur les épaules. « Pour se voir finir ici, dans ce diable de nid à rhumatisme, où, malgré tous les bourrelets du monde, il vous passe de ses gueux de courant d'air. C'est cela, ranime un peu le feu. » Et allongeant ses pieds vers Germinie, agenouillée devant la cheminée, les lui mettant en riant sous le nez, « Sais-tu qu'il en faut pas mal de cette philosophie-là pour porter des bas percés ?»« Bête, ce n'est pas pour te gronder. Je sais bien, tu ne peux tout faire. Par exemple, tu pourrais bien faire venir une femme pour raccommoder. Ce n'est pas bien difficile. Pourquoi ne dis-tu pas à cette petite qui est venue l'année dernière ? Elle avait une figure qui me revenait. » « Oh, elle était noire comme une taupe, mademoiselle. »
« Bon, j'étais sûre. Toi d'abord, tu ne trouves jamais personne de bien. Ce n'est pas vrai, ça ?
Mais est-ce que ce n'était pas une nièce à la mère Jupillon ? On pourrait la prendre, un jour, deux jours par semaine. Jamais cette traînée-là ne remettra les pieds ici. »
« Allons, encore des histoires.
Tu es étonnante, toi, pour adorer les gens et puis ne plus pouvoir les voir. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ?
C'est une perdue, je vous dis.
Bah, qu'est-ce que ça fait à mon linge ?
Mais, mademoiselle, eh bien, trouve-moi une autre. Je n'y tiens pas, celle-là, mais trouve-moi une.
Oh, les femmes qu'on fait venir ne travaillent pas. Je vous raccommoderai, moi, et il n'y a besoin de personne.
Toi ? Oh, si nous comptons sur ton aiguille, dit gaiement mademoiselle.
Et puis, est-ce que la mère Jupillon te laissera jamais le temps ?
Madame Jupillon ? Ah, pour la poussière que je ferai maintenant chez elle ?
Bah, comment ? Elle aussi ? La voilà dans l'élan l'air ? Oh, oh ! Dépêche-toi de faire une autre connaissance, car sans cela, bon Dieu de Dieu, nous allons avoir de vilains jours.
Chapitre 28. L'hiver de cette année dut assurer à Madame de Varandeuil une part de paradis. Elle eut à subir tous les contre-coups du chagrin de sa bonne, le tourment de ses nerfs, la vengeance de ses humeurs contrariées, aigries,
et où les approches du printemps allaient bientôt mettre cette espèce de folie méchante que donnent aux sensibilités maladives la saison critique, le travail de la nature, la fécondation inquiète et irritante de l'été. Germinie se mit à avoir des yeux essuyés qui ne pleuraient plus, mais qui avaient pleuré. Elle eut un éternel « Je n'ai rien, mademoiselle !» dit de cette voix sourde qui étouffe un secret. Elle prit des poses muettes et désolées, des attitudes d'enterrement, de ces airs avec lesquels le corps d'une femme dégage de la tristesse et fait un ennui de son ombre. Avec sa figure, son regard, sa bouche, les plis de sa robe, sa présence, avec le bruit qu'elle faisait en travaillant dans la pièce à côté, avec son silence même, elle enveloppait mademoiselle du désespoir de sa personne. Au moindre mot, elle se hérissait. Mademoiselle ne pouvait plus lui adresser une observation, lui demander la moindre chose, témoigner une volonté, un désir. Tout était pris par elle comme un reproche. Elle avait là-dessus des sorties farouches. Elle grognait en pleurant. « Ah, je suis bien malheureuse. Je vois bien que mademoiselle ne m'aime plus. » Sa grippe contre les gens trouvait des bougonnements sublimes. « Elle vient toujours quand il pleut, celle-là » disait-elle pour un peu de crotte laissée sur le tapis par madame de Belleuse. La semaine du jour de l'an, cette semaine où tout ce qui restait de parents et d'alliés à mademoiselle de Varandeuil montait sans exception, les plus riches comme les plus pauvres, ses 5 étages, et attendait à sa porte, sur le carré, pour se relayer sur les 6 chaises de sa chambre, Germinie redoubla de mauvaise humeur, de remarques impertinentes, de plaintes maussades. À tout moment, forgeant des torts à sa maîtresse, elle la punissait par un mutisme que rien ne pouvait rompre. Alors, c'était des rages d'ouvrage. Tout autour d'elle, mademoiselle entendait à travers les cloisons des coups de balai et de plumeaux furieux, des frottements, des battements saccadés. Le travail nerveux de la domestique qui semble dire, en malmenant les meubles, « Eh bien, on le fait, ton ouvrage !» Les vieilles gens sont patients avec les anciens domestiques. L'habitude, la volonté qui s'éteint, l'horreur du changement, la crainte des nouveaux visages, tout les dispose à des faiblesses, à des concessions, à des lâchetés. Malgré sa vivacité, sa facilité à s'emporter, à éclater, à jeter feu et flamme, mademoiselle ne disait rien. Elle avait l'air de ne rien voir. Elle faisait semblant de lire quand Germinie entrait. Elle attendait, racoquinée dans son fauteuil, que l'humeur de sa bonne se passât ou crevât. Elle baissait le dos sous l'orage. Elle n'avait contre sa bonne ni un mot ni une pensée d'amertume. Elle la plaignait seulement pour la faire autant souffrir. C'est que Germinie n'était pas une bonne pour mademoiselle de Varandeuil. Elle était le dévouement qui devait lui fermer les yeux. Cette vieille femme isolée et oubliée par la mort, seule au bout de sa vie, traînant ses affections de tombe en tombe, avait trouvé sa dernière amie dans sa domestique. Elle avait mis son cœur sur elle, comme sur une fille d'adoption. Et elle était malheureuse surtout de ne pouvoir la consoler. D'ailleurs, par instant, du fond de ses mélancolies sombres et de ses humeurs mauvaises, Germinie lui revenait et se jetait à genoux devant sa bonté. Tout à coup, pour un rayon de soleil, pour une chanson de mendiant, pour un de ces riens qui passent dans l'air et détendent l'âme, elle fondait en larmes et en tendresse. C'était des effusions brûlantes, un bonheur d'embrasser, comme une joie de revivre qui effaçait tout. D'autres fois, c'était pour un bobo de mademoiselle. La vieille bonne se retrouvait aussitôt avec le sourire de son visage et la douceur de ses mains. Quelquefois, dans ces moments-là, mademoiselle lui disait « Voyons, ma fille, tu as quelque chose. Voyons, dis !» Et Germinie répondait « Non, mademoiselle, c'est le temps. » Le temps, répétait mademoiselle d'un air de doute. Le temps.
Chapitre 29. Par une soirée de mars, la mère et le fils Jupillon causaient, au coin du poêle de leur arrière-boutique. Jupillon venait de tomber au sort. L'argent que la mère avait mis de côté pour le racheter avait été mangé par 6 mois de mauvaises affaires, par des crédits à des lorettes de la rue qui avaient mis un beau matin la clé sous le paillasson de leur porte. Lui-même, en mauvaises affaires, était sous le coup d'une saisie. Dans la journée, il était allé demander à un ancien patron de lui avancer de quoi s'acheter un homme. Mais le vieux parfumeur ne lui pardonnait pas de l'avoir quitté et de s'être établi. Il avait refusé net. La mère Jupillon, désolée, se lamentait en larmoyant. Elle répétait le numéro tiré par son fils. Jupillon fumait et laissait dire sa mère. Quand elle eut fini, « Assez causé, maman, tout ça, c'est des mots, » fit-il. « Tu te tourmentes la digestion, ce n'est pas la peine. Tu n'as besoin de rien vendre. T'as pas besoin de te fouler. Je me rachèterai. Et sans que ça te coûte un sou, veux-tu parier ?»«
Jésus !» fit madame Jupillon.
« J'ai mon idée. »
Et après un silence, Jupillon reprit.
« Je n'ai pas voulu te contrarier à cause de Germini. Tu sais, lors des histoires, t'as cru qu'il était temps de me la casser avec elle, qu'elle nous ferait des affaires, et tu l'as flanquée à la porte, raide. Moi, ce n'était pas mon plan. Je trouvais qu'elle n'était pas si mauvaise que cela pour le beurre de la maison. Mais enfin, t'as cru bien faire. Et puis, peut-être, au fait, tu as bien fait. Au lieu de la calmer, tu l'as chauffée pour moi. Mais chauffée. Je l'ai rencontrée une ou deux fois. Elle est d'un changé. Elle est sèche, quoi.
Mais tu sais bien, elle n'a plus le sou.
À elle, je ne dis pas. Mais qu'est-ce que ça fait? Elle trouvera. Elle est encore bonne pour 2,300 balles, va. Et si tu es compromis?
Oh, elle ne les volera pas.
Savoir? Eh bien, ça ne sera qu'à sa maîtresse. Est-ce que tu crois que sa mademoiselle la fera pincer pour ça? Elle la chassera, et puis ça restera là. Nous lui conseillerons de prendre l'air d'un autre quartier. Voilà, et nous ne la verrons plus. Mais ce serait trop bête qu'elle vole. Elle s'arrangera, elle cherchera, elle se retournera. Je ne sais pas comment, par exemple, mais tu comprends, ça la regarde. C'est le moment de montrer ses talents. Au fait, tu ne sais pas, on dit que sa vieille est souffrante. Si elle venait à s'en aller, cette bonne demoiselle, et qu'elle lui laisse tout le bibelot, comme ça court dans le quartier. Hein, maman? Ça serait encore pas mal bête de l'avoir envoyée à la balançoire. Il faut mettre des gants, vois-tu, maman, quand c'est des personnes auxquelles il peut tomber comme ça 4 ou 5 000 livres de rente sur le casaquin. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que tu me dis? Mais après la scène que je lui ai faite, oh non, elle ne voudra jamais revenir ici. Eh bien, moi, je te la ramènerai, et pas plus tard que ce soir,
fit Jupillon en se levant et roulant une cigarette entre les doigts.
Tu sais, dit-il à sa mère, pas d'excuses, c'est inutile, et de la froideur, et l'air de la recevoir seulement pour moi, par faiblesse. On ne sait pas ce qui peut arriver. Faut toujours se garder à carreau.